Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous faites le choix de m'écouter en podcast, on va s'intéresser de près aux ambitions africaines d'un des journaux français de référence, Le Monde. En janvier 2015, Le Monde lançait Le Monde Afrique avec une double ambition. D'abord, développer et améliorer sa couverture de l'actualité africaine, mais aussi élargir son audience grâce au numérique. 6 ans plus tard, tout cela semble encore valable. Mais où en est concrètement Le Monde Afrique? Pourquoi et comment Le Monde voit-il son futur en Afrique? C'est ce dont je vais discuter avec le président du directoire du groupe Le Monde, Louis Dreyfus. Bonjour, bienvenue dans l'Atelier des médias.
Bonjour.
Louis Dreyfus, le mois dernier, vous étiez en Côte d'Ivoire pour lancer un test avec un opérateur majeur de télécommunications, j'ai nommé Orange. Orange, c'est 15 millions de clients en Côte d'Ivoire et vous aimeriez que quelques-uns d'entre eux s'abonnent au Monde en passant par la plateforme d'Orange en Côte d'Ivoire.
C'est ça. Si je reprends le contexte, le Monde depuis un moment mise sur son développement à travers l'activité numérique. Et ce développement se concrétise au Monde par un portefeuille d'abonnés numériques qui est particulièrement important, puisque moi, quand j'ai pris mes fonctions il y a 11 ans à la tête de ce groupe, nous avions 20 000 abonnés numériques. Aujourd'hui, Le Monde compte plus de 400 000 abonnés purs numériques. Donc on voit bien que se développe une capacité à toucher un lectorat beaucoup plus important via le numérique et un lectorat qui est prêt à payer. À côté de ce moteur de croissance, on a identifié un autre relais de croissance pour nous et une ambition éditoriale très forte qui est de plus et mieux couvrir l'actualité africaine. Et donc, on a dédié des moyens de plus en plus importants pour couvrir cette actualité. Et on cherche maintenant à retrouver la même dynamique que nous avons en France sur le continent africain, à savoir développer une audience et une audience et un portefeuille abonné. Pour cela, parmi nos difficultés, il y avait trouvé l'intermédiaire qui nous permettrait d'atteindre une audience qui est souvent peu bancarisée. Parce que c'est un des phénomènes marquants en Afrique, c'est que le système bancaire est peu utilisé. On a considéré qu'un opérateur téléphonique était probablement une des meilleures façons de toucher ce public. Il se trouve que Orange compte, je crois, 130 millions d'abonnés sur le continent africain et qu'Orange Money, leur solution de paiement via l'interface mobile, compte 55 millions de clients. Donc on a dit, voilà, là, il y a une taille critique. C'est un opérateur qui a été très désireux de travailler avec nous. Et donc, on a lancé une première offre le mois dernier en Côte d'Ivoire où tous les abonnés d'Orange Côte d'Ivoire se voit proposer à un prix très réduit puisque c'est 3000 francs CFA par mois.
4,50 €,
l'abonnement au Monde.
Donc c'est clairement moins cher que ce que paye un utilisateur en France, par exemple, qui paye autour de 10 €, voire un peu plus au bout d'un certain temps.
Alors non, au Monde, il ne paye pas plus au bout d'un certain temps. Nos prix sont désormais fixes. En fait, on a pris une solution tarifaire qui ressemble aux standards de marché qui sont les standards Netflix. C'est-à-dire que vous avez un prix pour un abonnement simple, un prix pour plusieurs comptes et un abonnement un peu plus développé, et un troisième prix pour un abonnement famille.
Mais il y a très souvent un prix d'appel à 9,99 € qui après peut évoluer.
Non, aujourd'hui, pour Le Monde, sorti de cet usage, qui est un usage qui vient du papier, où en fait, plus vous êtes fidèle à une offre d'abonnement, plus vous payez cher. C'est contre-intuitif. Bon. Donc aujourd'hui, maintenant, si vous payez plus que moi, en étant abonné au Monde, c'est que vous avez plus que moi. Vous pouvez avoir le journal plus tôt, vous allez pouvoir avoir d'autres offres éditoriales ou plus de comptes. Mais donc aujourd'hui, on ne bouge pas. Le marché africain est un autre marché. C'est un marché où d'abord le Monde est bien moins présent, alors que nous sommes leaders du marché en France. Et donc, pour rentrer sur ce marché, et puis parce que les prix ne sont pas les mêmes, on a choisi d'adapter notre offre tarifaire à l'économie du marché qu'on a cherché à conquérir.
Vous disiez tout à l'heure, Le Monde, c'est environ 400 000 abonnés purs numériques. Combien y a-t-il d'abonnés venant du continent africain?
Oh, il y en a très peu. Il y en a très peu. C'est-à-dire que
quelques
milliers. C'est-à-dire qu'on est sur le portefeuille abonné du Monde qui vient de l'étranger et de l'ordre de 10% de nos abonnés. Donc, mais parce qu'on était très compliqué à. D'abord, on n'a pas eu de stratégie commerciale en la matière. Et puis, parce qu'on n'avait pas forcément des tunnels d'abonnement les mieux configurés. Et puis, parce que l'offre tarifaire était différente. Donc, voilà. Mais c'est une offre majeure. Avec Jérôme Fenoglio, on s'est fixé comme objectif, fin 2023, donc finalement, dans pas si longtemps, hein, c'est dans 2 ans, d'atteindre pour Le Monde 1 million d'abonnés tout compris. Aujourd'hui, nous sommes à 500 000 abonnés print plus numérique. Donc, en deux ans, on a pour ambition de doubler ce portefeuille d'abonnés. Et évidemment, l'audience francophone, et notamment l'audience africaine, sera un vrai moteur pour atteindre cet objectif.
Alors justement, effectivement, le centre de gravité de la francophonie est de plus en plus en Afrique. Les médias français s'y essaient. On peut citer Slate France, qui en 2011 avait lancé Slate Afrique, qui n'existe plus maintenant. Le magazine Le Point, qui a lancé Le Point Afrique en 2014. On pourrait citer aussi Bayard Press, qui a lancé La Croix Afrique en 2017. La Tribune, qui a lancé La Tribune Afrique. Mais Le Monde est sans doute le plus ambitieux des médias français en Afrique, et notamment par les effectifs que vous avez alloués depuis 6 ans au contenu africain du Monde.
Je crois qu'effectivement, vous le dites très bien, le constat que nous faisons, il est partagé par beaucoup, c'est de voir que nous vivons une croissance incroyable de l'économie africaine, une transformation des sociétés africaines, et qu'il y a matière à plus et mieux le raconter. D'où ce développement d'offres médiatiques d'origine française en Afrique. Après, la différence et l'énorme différence qu'il y a entre les exemples que vous citez et Le Monde Afrique, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 35 journalistes qui sont dédiés à la couverture de l'actualité africaine.
C'est-à-dire donc, dans le détail, vous en avez une quinzaine à Paris.
Quinzaine à Paris et 20 sur le continent. Et on va faire ce qu'on a fait en France. C'est-à-dire qu'en France, au fur et à mesure que notre offre d'abonnement numérique trouvait son public, nous réinvestissions dans la rédaction. Je ne sais pas si c'est le cas à RFI, mais au Monde, il y a 10 ans, il y a 11 ans, quand j'ai pris mes fonctions, il y avait 310 journalistes. Aujourd'hui, il y en a 500. Donc vous avez une rédaction qui a presque doublé. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on a des abonnés supplémentaires, on a des revenus supplémentaires qu'on réinjecte dans la rédaction, considérant que c'est le meilleur moyen de recruter, de fidéliser. Ben, on va avoir la même démarche pour Le Monde Afrique. C'est au fur et à mesure qu'on va trouver un public et qu'on va le fidéliser, on va réinvestir ses revenus dans la rédaction, et probablement dans la rédaction sur le continent africain.
Parce que pour l'instant, les effectifs sont stables depuis 6 ans pour Le Monde Afrique.
Ah non, on les a augmentés.
Une douzaine de journalistes à Paris au lancement, maintenant une quinzaine, et puis les correspondants ont toujours été autour de 15-20.
Oui, mais d'abord ils étaient de 15, ils sont de 20, et puis aujourd'hui, l'offre d'abonnement numérique, elle ne fait que commencer. Donc pour l'instant, on avait besoin d'installer une activité, de trouver des financements. Maintenant que Le Monde, l'activité nationale, a trouvé son modèle économique, on va essayer de reproduire cette réussite sur le marché africain. Et c'est maintenant qu'on va juger du rythme de recrutement et de fidélisation des abonnés. On sait très bien que c'est quelque chose qui peut être très lent. Si on voit nos confrères de Presse Magazine, ils ont du mal. Mais par ailleurs, il y a sur d'autres marchés, je pense au marché audiovisuel, notamment avec Netflix et Spotify, il y a des marchés qui sont en vrai développement parce qu'une grande partie du public a compris qu'il n'était pas illogique de payer à partir du moment où vous avez une offre exclusive et de qualité. Et que ce qui explique la croissance du développement des portefeuilles d'abonnés du Monde. Ben on va essayer de répliquer cette expérience en Afrique.
Parlons justement de la ligne éditoriale du Monde sur les contenus africains. Petite question aussi, comment vous positionnez-vous justement par rapport à RFI, France 24 ?
Je pense qu'on fait une offre complémentaire. D'abord parce que notre offre, elle va être une offre payante. Donc, vous la comparez à une offre gratuite. On fait une offre pour l'essentiel qui va être de presse écrite, d'articles, alors que vous la comparez à une offre audio ou audiovisuelle. Donc, on fait une offre complémentaire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je considère que le JT de France 2 est un concurrent au Monde. C'est deux offres différentes. Mais je pense qu'il n'y a aujourd'hui pas de grand support continental, francophone, sur le numérique, et qu'on peut offrir ça, et qu'on serait une offre différente. RFI a, par son histoire, par la densité de son réseau de correspondants, une qualité éditoriale incontestable. Pour autant, ça n'interdit pas à un acteur comme Le Monde d'offrir une autre forme de traitement.
Précisons aussi pour nos auditeurs que chaque samedi sur l'antenne de RFI et en podcast, il y a une chronique intitulée « Le regard du monde Afrique » qui met en avant un article paru sur votre site. Ce qui rassemble aussi France Média Monde, RFI, France 24 et Le Monde, c'est une certaine approche, un certain esprit aussi, j'ai l'impression, de service public. Et ça, j'ai l'impression que c'est important pour vous et pour Jérôme Fenoglio, le directeur du Monde.
Tout à fait. Pour Jérôme Fenoglio, pour toute l'équipe du Monde et pour nos actionnaires, on a quand même conscience que le Monde aujourd'hui est le fruit d'un travail de plus de 60 ans d'histoire, né de la volonté d'Hubert Beuve-Méry de créer un journal qui serait quand même un bien commun. Donc, c'est quotidiennement compliqué de faire vivre une entreprise donc, à une logique de rentabilité et en même temps de respecter le fait qu'on cherche à mieux informer un public de plus en plus large. C'est pour ça que, d'ailleurs qu'en dépit de notre succès d'abonnement payant, Jérôme Fenoglio, et il a raison de le faire, veille à ce que notre offre gratuite sur le numérique reste très importante parce qu'on considère que il est important de toucher un public très large. Ce sera la même chose pour l'Afrique. Je pense qu'on peut contribuer à la transformation de la société africaine en leur donnant d'autres éclairages sur l'information. Et on peut aussi contribuer à ce que nos lecteurs français aient un regard plus précis sur la transformation de la société africaine. Donc ça marche dans les deux sens.
Alors la ligne éditoriale du Monde est menée notamment par Caroline Monod, directrice de la rédaction. Pour le Monde Afrique, c'est spécifiquement Charlotte Bozonnet, rédactrice en chef. Et un des objectifs aussi, c'est de parler de l'Afrique qui entreprend, de l'Afrique qui réussit, de l'Afrique qui gagne, de l'économie africaine, de montrer la vitalité de ce continent.
C'est ça. C'est-à-dire que pendant trop longtemps, les médias français...
Et vous ?
Et donc nous. Et pas RFI, parce qu'RFI avait une présence locale particulièrement importante, mais ne s'intéressait à l'Afrique, ne couvrait l'Afrique qu'au moment de changements politiques majeurs ou de crises écologiques.
Un média de crise voilà. Au sens large.
Et donc, on avait un traitement qui était irrégulier, qui était épisodique et qui était anxiogène. La réalité de ce continent est évidemment beaucoup plus enthousiasmante et c'est ce qu'on essaye de raconter en mettant beaucoup plus d'équipes, effectivement, en essayant de s'attacher aux enjeux d'aujourd'hui et de demain pour l'Afrique. Le week-end dernier, on a publié un supplément sur l'enjeu des villes moyennes en Afrique. Je crois qu'en 2050, les prévisions donnent 900 millions d'Africains, dont deux tiers vivraient dans un contexte urbain. Donc il y a des enjeux... d'urbanisme, des enjeux de mobilité qui sont considérables. Et ça, on peut le raconter, et ça passionne tous nos lecteurs, où qu'ils vivent.
Mais en même temps, vous êtes aussi dans le dur, c'est-à-dire qu'en Afrique, la crainte d'une crise alimentaire de grande ampleur, par exemple, pouvait-on lire mardi 7 décembre sur Le Monde Afrique, qui se basait notamment sur le dernier baromètre du FAO, l'Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation. La veille, on lisait un article sur le développement du sentiment anti-français au Niger sur fond d'attaques djihadistes. Mais à côté de tout ça, vous allez aussi parler, faire des playlists musicales, par exemple, de création africaine.
Ben, voilà, y a...
Essayer de faire un grand écart.
C'est pas un grand écart, c'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi nous aurions, à l'égard du continent africain, un regard plus réduit que ce que nous avons sur le marché français. On peut se permettre, quand on traite de l'activité française, de parler des grèves, de parler du climat politique, et en même temps de parler des sorties de films ou de l'émergence d'un nouvel artiste. Eh bien, on souhaite avoir le même spectre de traitement, la même largeur de vue quand on parle de la culture africaine, de l'économie africaine, mais aussi des crises, voire du sentiment anti-français quand il existe dans certains pays.
En même temps, ce qui est compliqué quand on traite de sujets africains, c'est d'essayer de trouver des sujets éditoriaux qui soient transverses et qui parlent aux spécificités de chaque pays africain.
Alors, je pense que ça, c'est effectivement l'enjeu majeur qui ne peut se résoudre probablement qu'en ayant... de plus en plus d'équipes qui couvrent le terrain. Je pense que rares sont les sujets qui permettent de retranscrire une réalité continentale. En fait, il y a beaucoup de réalités locales et à charge pour nous d'essayer de traiter les unes et les autres. Et ça nous demande, au fur et à mesure, d'envoyer de plus en plus de gens sur le terrain.
Et quand il y a un événement majeur, comme par exemple la Coupe d'Afrique des Nations de football qui va avoir lieu en janvier, c'est important aussi pour le monde Afrique parce que justement c'est un sujet fédérateur, le foot ?
Je pense que c'est un sujet fédérateur aussi parce que ça nous permet de toucher des publics plus jeunes. Au monde, nous considérons que parmi nos priorités, on a d'arriver à parler aux moins de 18 ans. Que c'est notre audience de demain ou d'après-demain et que c'est dès maintenant qu'on peut commencer à construire une relation avec eux. Cette relation, elle sera sur la base d'une audience gratuite. On le fait beaucoup via Snapchat ou TikTok. Snapchat, pour donner un chiffre, on a 1,4 million d'ados français qui nous lisent sur Snapchat. 1,4 million. Donc, et d'ailleurs, moi j'ai créé cette édition il y a 5 ans, on était le premier média français sur Snapchat. L'an dernier, on avait plus de 50% de nos abonnés payants au monde qui avaient moins de 30 ans. Et bien, je pense qu'une partie de ces moins de 30 ans viennent de Snapchat. Et donc l'idée, c'est avec le monde Afrique aussi, de trouver des thématiques qui vont intéresser, voire passionner les plus jeunes, de construire un dialogue avec eux, une relation, et qu'à un moment, ils se disent que sur tous les sujets, on est l'organe de référence. Vous disiez tout à l'heure que Le Monde était un des journaux de référence en France. Moi, j'en connais pas d'autres, mais je suis prêt à tout entendre. Eh bien, l'Afrique, si on peut en construire une relation en traitant des sujets qui sont aussi passionnants que le sport et un événement comme la Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, arriver à nouer des relations avec eux, ce sera formidable.
Essayez aussi de suivre les usages, j'ai envie de dire, ou d'être à l'avant-garde, d'innover, innover, innover toujours.
De toute manière, pour arriver à capter l'attention des jeunes, on a besoin d'être sur des formats qui sont les leurs, pas les nôtres, et sur des sujets qui sont souvent les leurs. Alors, sur les sujets, par exemple sur Snapchat, nous, on est très vigilants à traiter de l'actualité qui n'est pas de l'actualité pour les jeunes. Hein. C'est l'actualité et les priorités du monde. En revanche, dans les formats, et je vous rejoins, là, il faut accepter d'être sur des formats qui sont souvent plus vidéo, plus graphiques, plus audio, qui permettent de correspondre à leur code.
Parlons aussi du journal papier, parce que Le Monde ne peut pas envisager de diffuser largement une version papier en Afrique. C'est compliqué, j'imagine.
C'est malheureusement impossible pour des raisons qui sont le réseau de distribution de la presse papier en Afrique est un réseau qui est peu développé. Les coûts des papiers, de l'énergie, des matières premières a explosé au cours des derniers mois. Et par ailleurs, si on considère que notre objectif premier est la conquête des nouvelles générations, le support papier n'est pas forcément le premier vecteur qu'ils utilisent. Donc on avait essayé, il y a 7-8 ans, on avait lancé une édition, on avait fait un test avec une édition de Courrier International dédiée à l'Afrique qu'on avait distribuée en Côte d'Ivoire, et ça avait été très compliqué de le distribuer. Donc c'est compliqué de l'imprimer, c'est compliqué de l'acheminer, c'est compliqué de le distribuer, c'est compliqué de récolter les fonds.
C'est donc ça, moi, vous l'aviez imprimé dans les presses de Fraternité Matin, donc venant ce Conan, et puis vous vous rendiez compte que c'était compliqué d'amener les exemplaires papier déjà dans plusieurs capitales africaines et de le vendre ailleurs que dans les aéroports, et voilà, dans quelques points très précis, spécifiques dans les villes.
Voilà,
les
grands hôtels. On s'est dit, c'est beaucoup d'efforts pour une annonce qui est sympathique, mais qui ne sert pas beaucoup. Donc moi, je préfère qu'on mette plus de ressources dans du numérique et qu'on arrive à toucher une audience beaucoup plus large. Quand on voit l'audience des réseaux sociaux dans ces pays-là, il y a forcément quelque chose à inventer.
Parlons de l'approche africaine du groupe Le Monde cette fois-ci. Vous parliez de Courrier International. Courrier International qui, en France, est le premier titre de presse magazine en matière d'abonnement pur numérique. Voilà, avez-vous des ambitions africaines pour d'autres titres du groupe ou d'autres environnements numériques du groupe ?
Je crois qu'on va d'abord utiliser le Monde comme poisson pilote parce qu'on est le titre en France qui est le plus développé sur le numérique. On a les équipes qui sont les plus denses pour couvrir l'Afrique. Et que quand on arrivera à comprendre le modèle, j'espère que ce sera rapidement, mais ça peut prendre aussi du temps. Et on se donne le temps, et ça c'est l'avantage d'avoir les actionnaires qui nous suivent sur cette stratégie, c'est qu'on n'a pas d'objectif à court terme. Donc on s'inscrit dans la durée. Dans ce cas-là, après, on pourra amener des supports tels que Courrier ou d'autres, mais que là, le premier vecteur, ça va être Le Monde.
J'aimerais qu'on parle un peu du modèle économique du Monde Afrique. Si j'en crois mes confrères de Mind, eh bien, les ressources propres du Monde Afrique sont encore marginales, en tout cas en matière d'abonnement. Et on sait que le Monde mise notamment et principalement sur les abonnements, plus que sur les ressources publicitaires par ailleurs. Depuis ses débuts, le Monde Afrique vit principalement de subventions. Des subventions notamment du fonds Google, le fonds pour l'innovation numérique de la presse, devenu Digital News Initiative. L'Agence française de développement, l'AFD, puis le Fonds français Muskoka, la Fondation Bill et Melinda Gates aussi, qui, dans le détail, vous a donné 4 millions de dollars sur 8 ans, ce qui va être discuté en 2022. Vous avez envie de sortir de ce modèle-là pour Le Monde Afrique ?
D'abord, le premier financeur du Monde Afrique, c'est Le Monde. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs que vous citez sont des acteurs qui sont
en soutien,
mais qui sont marginaux dans le financement. Donc, le premier financeur, c'est Le Monde. Le Monde a décidé de financer une activité qui est aujourd'hui à perte parce qu'on considère qu'une partie de notre avenir se joue avec la conquête d'une audience africaine.
D'ailleurs, Le Monde Afrique n'est pas une sous-structure juridique du Monde.
Non, non.
C'est une verticale, comme on dit dans le secteur du Monde.
Mais moi, quand je regarde l'économie de cette verticale, je sais que les revenus ne sont pas à la hauteur de notre investissement. Et donc, c'est le choix que nous avons fait avec Jérôme Fenoglio de poursuivre cet investissement. Mais nous considérons, par ailleurs, chaque fois qu'on signe un partenariat et ou un accord, c'est notamment vrai avec la fondation Gates, avec laquelle on travaille remarquablement, il est très clair dans ces accords qu'à aucun moment la rédaction ne peut voir son indépendance abîmée. Donc il y a vraiment une séparation des tâches qui est très claire. Mais ce sont des financements qui nous permettent d'alléger le poids des financements qui sinon en encombraient au monde.
Pour spécifier quand même pour nos auditeurs, quand vous dites que la fondation Bill et Melinda Gates n'intervient pas dans l'éditorial, ce sont des subventions qui sont conditionnées mais uniquement par thématique, c'est-à-dire que l'on vous incite à traiter, je ne sais pas, de la faim en Afrique, mais on ne va pas vous dire comment le faire.
Et oui, et par ailleurs, nous, quand on nous propose ça, on regarde si ce sont des sujets qu'on considère comme pertinents. Donc, quand ce sont des sujets, par exemple, de santé en Afrique, on considère que ça mérite une couverture très large, et qu'on se dit, ben, si nous avons le financement de la Fondation Gates, alors nous pouvons choisir de plus et mieux traiter ce type de sujet, c'est-à-dire qu'on aura plus de ressources, sans qu'effectivement la Fondation Gates nous dise qui doit les traiter ou ce qu'on doit traiter, alors c'est à notre avantage. Donc c'est ce qu'on fait. Mais effectivement, on cherche, et c'est le modèle du monde, aujourd'hui, l'activité du monde dépend à 85% des revenus qui viennent des lecteurs. Le kiosque, l'abonnement papier ou l'abonnement numérique. Donc on cherche, progressivement, et il faudra beaucoup de temps, à ce que l'activité du monde Afrique repose aussi sur ça. Ça nous permet d'être à la fois le plus exigeant dans notre production éditoriale et le plus indépendant de toute forme de financement extérieur.
Donc l'idée, c'est peut-être aussi d'essayer de multiplier ces accords avec les telcos, le secteur de télécommunications, comme celui avec Orange en Côte d'Ivoire dont on parlait tout à l'heure.
Exactement. Donc on a commencé avec la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai l'ambition qu'on continue à ouvrir d'autres pays au premier semestre 2022 pour que progressivement, on ait une somme de marché qui nous permette d'atteindre une taille critique.
Et peut-être l'ouverture un jour de bureaux Afrique sur le continent africain pour le monde ?
À terme, on aura forcément ça, oui, bien sûr.
Y a-t-il aussi une réflexion autour des langues africaines pour le monde ? Le Monde est un journal de langue française, on le sait, mais parfois vous avez traduit certains de vos articles à portée internationale en anglais. Avez-vous une réflexion là-dessus sur les langues africaines ?
La question de l'internalisation des contenus est une vraie question. C'est-à-dire que si on considère qu'on a vocation à être le grand média français avec une audience très internationale, il faut absolument qu'à un moment, on puisse parler dans une autre langue. La première question sera la question de l'anglophonie, qui d'ailleurs rejoint une partie des pays africains. Ça nous permettrait d'être plus détendu. On est très vigilant à ce que si on doit avoir une version internationale, on n'obère pas la qualité de ce qu'on produit. Et par ailleurs, il faut qu'on ait une réactivité qui soit assez forte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre plusieurs jours pour que les contenus soient traduits. Et puis, il y a une logique de coût, il faut faire attention, parce que les coûts de traduction peuvent être très, très élevés. Mais on a une réflexion en la matière. Je pense que parmi les grands chantiers pour les prochaines années du monde, il y aura les langues étrangères. Est-ce que les langues africaines peuvent permettre au monde de se développer? Moi, j'ai tendance à croire que ce sera d'abord les langues les plus parlées dans le monde qu'on essayera de s'approprier.
J'ai envie de vous poser une dernière question un peu générale, mais pour essayer de conclure ensemble et de rassembler tout ce que l'on vient de se dire. Le futur du média Le Monde passe-t-il nécessairement par l'Afrique?
Je pense que le futur, si Le Monde veut être à la hauteur des ambitions qu'on s'est fixées, il faudra forcément qu'on ait une présence africaine qui soit une présence qui soit durable, et donc on ait construit des relations et une présence sur les plus grands marchés africains, chaque marché posant des difficultés très spécifiques. Chaque marché du Maghreb pose des questions compliquées. Les autres pays africains francophones aussi. Mais oui, moi je considère que si dans 5 ans, on n'a pas une présence africaine réelle, on sera passé à côté d'une opportunité majeure.
Merci beaucoup Louis Dreyfus.
Merci à vous.
Merci d'être venu dans l'atelier des médias. Je rappelle que vous êtes président du directoire du groupe Le Monde. Et je rappelle que l'on trouve les contenus Afrique de votre journal sur lemonde.fr/Afrique. Comme toujours, on termine cette émission avec Mondoblog Audio. Mondoblog, c'est la plateforme des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, on part au Tchad, plus précisément à N'Djamena, la capitale tant aimée par Saïba Ngousmon, un de nos blogueurs tchadiens, qui nous raconte sa ville, celle de son enfance et celle d'aujourd'hui.
N'Djamena change énormément. Je ne reconnais presque plus ma ville. Je suis nostalgique des ruelles étroites du quartier Paris-Congo, du bruit authentique des garages auto du quartier sans fil, de la belle musique qui anime les rues du quartier Kabalaï, de la joie communicative des enfants de Walia. Une image en particulier restera à tout jamais gravée dans ma mémoire. J'avais 9 ans. J'étais avec ma mère dans le quartier Ridina. Nous allions prendre un taxi pour rentrer à la maison. Maman me montra un grand bâtiment construit tout en terre battue. Très beau, très élégant. Elle m'indiqua qu'il s'agissait d'une maison en étage, construite en poteau-poteau. Je contemplais ce bâtiment et j'étais émerveillé. Aujourd'hui encore, je rêve souvent de revoir cette vieille maison, si belle. Mais la ville n'est plus ce qu'elle était. L'architecture de N'Djamena a changé. Il y a trop de briques cuites et de parpaings en ville. Le bitume a aussi augmenté. À ce qu'il paraît, la ville se modernise. Et c'est signe de richesse de construire comme le font les Occidentaux. À ce qu'il paraît, l'ingéniosité architecturale du beau bâtiment en terre battue que j'avais admiré petit n'est plus digne de la capitale. Tant pis, peuple Sao, pour le savoir-faire avec l'argile et la maestria de la boue. La ville a évolué. La ville évolue à l'anarchie ces dernières années. Tout va trop vite. À N'Djamena, les responsables du service de cadastre vendent des terrains sans respecter la notion de risque liée à l'aménagement du territoire. Résultat, des maisons construites dans des zones sujettes aux inondations. Aucune attention à la réalité du terrain. Et on est surpris que nos maisons modernes et résistantes, parce que construites par des ingénieurs intellectuels, ne résistent pas aux intempéries. Pendant ce temps, le village Gawi, construit en terre battue à une quinzaine de kilomètres de là, est épargné et résiste aux aléas du temps. Les habitants ont bien compris qu'il fallait réduire les risques de catastrophe en se basant sur la nature elle-même. Je me demande souvent quelle identité architecturale typiquement tchadienne nous garderons pour la postérité. Comment concilier le progrès avec la tradition? Qu'allons-nous montrer aux yeux de l'histoire pendant que l'Égypte et le Soudan exhiberont fièrement leurs pyramides? Si l'envie d'aller à New York pour apprécier l'insolence de ces gratte-ciels me prenait, je partirais dès demain pour me donner le vertige. Mais en aucun cas, je voudrais voir ces gratte-ciels américains à N'Djamena. Oh N'Djamena, je rêve d'une ville authentique, fière, avec son empreinte et sa singularité.
C'était Saïban Gousmon, blogueur et slammeur à la rencontre de la jeunesse tchadienne de N'Djamena. Retrouvez ses billets sur son blog lafenêtreétoilée.mondoblog.org. Mondoblog audio qui était préparé comme chaque semaine par Camille Deloche. C'est la fin de cette émission. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi matin avant même qu'il soit disponible à la radio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict ou encore l'appli Radio France. Sur toutes les plateformes où vous pouvez, commenter et mettez des étoiles à l'Atelier des médias. Ça nous permettra d'être encore plus visible et donc encore plus écouté. C'est important. Pour nous contacter, un mail atelier@rfi.fr ou une mention sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.